Les marchandes de sable captant l'Atlantide, histoire de la mer de Isabelle Lafonta et illustration de Claire Degans. Comment le monde fut créé à partir d'une moule. À l'aube des temps, il n'y avait qu'un océan immense sur lequel flottaient Aérope et Nap, le dieu araignée. Un jour, Aérope et Nap aperçut sur les flots une étrange chose ovale. Intrigué, il la prit entre ses pattes et vit qu'il s'agissait d'une moule. Avec curiosité, il retourna le coquillage et l'étudia longuement dans l'espoir de trouver un petit trou lui permettant de pénétrer à l'intérieur. Malheureusement, la coquille de la moule ne comportait aucune brèche. Dépité, Aérope et Nap colla le coquillage à son oreille et le secoua. Comme il sonnait creux, il en conclut qu'il était vide. À nouveau, il tenta d'ouvrir son trésor, mais tous ses efforts furent vains. Après plusieurs essais infructueux, il décida de recourir à une incantation magique et supplia la moule de s'ouvrir en deux. Cette fois, le coquillage lui obéit. Ces deux valves s'écartèrent, libérant un passage étroit dans lequel Aérope et Nap se faufila aussitôt. Or, en s'étant reculé, la lune et le soleil n'existaient pas encore. Le dieu araignée se retrouva donc plongé dans l'obscurité, incapable de voir autour de lui. Par ailleurs, il y avait si peu d'espace à l'intérieur du coquillage qu'il lui fut absolument impossible de se mettre debout. Courbé en deux, Aérope et Nap commença immédiatement à fouiller l'intérieur de la moule dans l'espoir de rencontrer quelqu'un capable de lui venir en aide. Après de longues recherches, il finit par découvrir un minuscule escargot. Pour le faire grandir, il cala ce dernier sous son bras et se coucha à ses côtés pendant 3 jours et 3 nuits afin de lui transmettre un peu de sa force. Au matin du 4e jour, il se leva et reprit ses recherches, ce qui lui permit de trouver un deuxième escargot un peu plus grand que le premier et qu'il traita de la même manière. Lorsque le second escargot eut lui aussi suffisamment grandi, Aérope et Nap souleva le plus petit des deux et lui demanda « Gentil escargot, veux-tu repousser le toit de notre coquillage pour qu'on puisse s'asseoir sans se cogner la tête ?» L'escargot accepta et souleva légèrement la valve supérieure de la moule. Pour le remercier, le dieu araignée le prit dans ses mains, le fixa dans la partie occidentale de la coquille et le transforma en lune. Grâce à la faible lumière du nouvel astre, Aérope et Nap aperçut une énorme limace qu'il baptisa Rigi. Puis, il la pria de bien vouloir soulever un peu plus haut la partie supérieure de la coquille qui leur servait de ciel. La limace accepta et poussa celle-ci jusqu'à ce qu'elle finisse par former la voûte céleste sous laquelle nous vivons aujourd'hui. Crispé sous l'effort, Rigi se mit à transpirer, son corps se couvrit d'énormes gouttes de sueur salée qui ruisselèrent jusqu'à la coquille inférieure de la moule, donnant ainsi naissance à la mer. Exténuée par cet exploit, la pauvre limace s'écroula aux pieds du dieu araignée et rendit l'âme. Aérope et Nap se tourna alors vers le deuxième escargot et le fixa sur la coquille inférieure de la moule, donnant ainsi naissance à notre terre. C'est ainsi que le monde fut créé à partir d'un simple mollusque. Pourquoi la perdrix ne construit plus de bateaux pour les oiseaux? À l'aube des temps, la perdrix décida de fabriquer des bateaux pour tous les oiseaux afin de leur permettre de naviguer. Une fois sa tâche achevée, elle convoqua ses amis ailés et chacun d'entre eux reçut une embarcation. Ravis, les oiseaux bondirent aussitôt dans leur barque toute neuve, les poussèrent dans la mer et se mirent à ramer vers le large. Quel spectacle! L'aigle qui avait choisi le plus grand canoë était en tête et avançait à toute allure en utilisant les pointes de ses ailes en guise de rame. La chouette le suivait de près, fièrement escortée par la grue, le merle bleu, le rouge-gorge. le rouge-gorge, le merle noir et la bécassine des marées, lesquels avançaient sur les flots en poussant des cris de ravissement et en sifflotant de joie. Le colibri venait en dernier, assis dans une toute petite barque qu'il dirigeait à l'aide de minuscules rames que la perdrix avait fabriquées à son intention. Un peu en retard, le balbuzard pêcheur fit son apparition et se mit à tournoyer au-dessus de la mer pour mieux observer cet étonnant spectacle. En comptant les embarcations, il remarqua qu'il en manquait une et s'écria avec surprise. « Perdrix, où est ton canoë? Pourquoi n'en as-tu pas construit un pour toi ?» Mais la perdrix ne répondit pas, prit un air mystérieux et se mit à jouer du tambour. Après s'être bien amusé, les oiseaux amarrèrent leur barque sur la plage et allèrent trouver la perdrix pour lui demander pourquoi elle n'avait pas de bateau. Mais la perdrix refusa de s'expliquer et leur répondit qu'elle ne saurait se contenter d'un canoë ordinaire et que le jour où elle déciderait d'en construire un pour elle, ce serait une véritable merveille. Le temps passa. Comme la perdrix était la seule à rester à terre faute d'embarcation, le bruit se répandit au royaume des oiseaux qu'elle était en train de fabriquer un canot extraordinaire. La perdrix réfléchit longuement. Après mûre réflexion, elle finit par se dire que si un canoë à la coque allongée ne pouvait aller que dans les deux directions, en avant et en arrière, logiquement une embarcation toute ronde devrait être plus maniable. Excitée, la perdrix construisit donc une étrange barque ayant la forme d'un nid. Son travail achevé, elle convoqua les oiseaux. Pendant qu'elle mettait son canoë à la mer, ces derniers contemplèrent avec admiration cette embarcation à nulle autre pareille, en s'écriant « Quelle splendeur, vraiment ! Nous aurions été bien incapables d'en dresser les plans !» Flattée par ces compliments, la perdrix se gonfla d'orgueil, sauta dans son canoë en faisant bouffer ses plumes et commença à pagayer en direction de la haute mer. Mais elle eut beau ramer, au lieu d'avancer, le bateau resta sur place en tournoyant sur lui-même. Vexée, la perdrix se mit alors à pagayer de toutes ses forces, mais plus elle ramait, plus son embarcation tournait vite. Voyant que la pauvre perdrix ne parvenait pas à s'éloigner du rivage, les oiseaux éclatèrent de rire et se moquèrent d'elle. Mortifiée, la perdrix bondit hors de son étrange barque ronde et s'envola vers l'intérieur des terres. Une fois la mer hors de vue, elle se posa sur le sol et se blottit sous d'épais buissons pour y dissimuler sa honte. C'est pourquoi aujourd'hui encore, elle vit à ras de terre et se cache volontiers sous les feuilles et les arbrisseaux. Quant à son chant, il ressemble au bruit du marteau frappant le bois, car en secret, elle tente toujours de construire une embarcation capable d'éclipser celle des autres oiseaux. Le pêcheur et le phoque. Jadis vivait en Écosse un homme qui ne pêchait ni saumon ni morue. Voyant que les marchands payaient fort cher les peaux de phoque dans lesquelles ils taillaient de hauts chauds vêtements d'hiver, il s'était en effet spécialisé dans la chasse de ces animaux, ce qui lui permettait de bien gagner sa vie. Chaque jour, il fouillait les rochers du rivage pour trouver ses proies ou jeter l'ancre près des îles sur lesquelles les phoques aimaient se prélasser au soleil. Sa maison regorgeait de si belles peaux que les gens venaient de loin pour les acheter, et sa renommée finit par s'étendre dans toute la région. Un soir, un inconnu au teint sombre monté sur une fougueuse jument grise galopa jusqu'à sa porte et cria sous ses fenêtres. « Pêcheur, dépêche-toi de sortir! Mon maître veut t'acheter des fourrures et tu dois m'accompagner sans tarder !»« Je n'ai pas de cheval !» soupira le jeune homme, « mais je te promets de me rendre chez ton maître dès demain matin !» « Non !» lui répondit l'étranger visiteur. « Mon maître t'attend ce soir, sans faute. Monte derrière ma selle et ne t'inquiète pas, ma jument est forte et a le pied sûr. » Le pêcheur sauta derrière l'inconnu et tous deux partirent aussitôt à bride abattue vers l'est. La pouliche se mit bientôt à galoper si vite que le jeune homme en eut le souffle coupé. Jamais il n'avait chevauché pareille monture. Soudain, la cavale s'arrêta au bord d'une haute falaise et l'inconnu s'écria. « Nous sommes presque arrivés !» Surpris, le pêcheur regarda autour de lui sans voir âme qui vive. Intrigué, il questionna son guide qui se contenta de lui répondre que son maître habitait tout près, avant de marcher d'un pas ferme vers le bord de la falaise en tenant sa monture par la bride. Intrigué, le jeune homme lui emboîta le pas et regarda en bas, mais il ne vit que les flots gris agités par les vagues que survolaient les mouettes et les goélands. « Où habite ton maître ? » demanda-t-il à nouveau. À cet instant, son visiteur lui empoigna le bras et le poussa de toutes ses forces dans le vide. Entourés par des nuées d'oiseaux qui accompagnèrent leur chute en piaillant, les deux hommes et la jument tombèrent tout droit vers l'océan, touchèrent les vagues dans de grandes gerbes d'eau et coulèrent à pic. Stupéfait, le pêcheur constata qu'il pouvait récupérer sans peine dans la mer glaciale. Avec émerveillement, il finit par toucher le fond et aperçut au loin une faible lueur verte. En s'approchant, il vit qu'il s'agissait de collines et de vallées recouvertes d'algues verdoyantes. À cet instant, il réalisa qu'il était devenu un phoque, à l'image de son guide. Ce dernier le conduisit jusqu'aux portes d'une ville immense dont les maisons blanches comme l'écume étaient entourées de parterres de mousse marine plus verte et plus brillante que l'herbe. Dans les rues, des centaines de phoques se pressaient et le jeune homme les entendit parler dans une langue inconnue. Ailleurs, des mères berçaient tendrement leurs bébés, des enfants jouaient parmi les algues et des phoques dansaient et chantaient au son d'une étrange musique. Finalement, le coq le conduisit devant un palais aux fenêtres brillantes dont la toiture était formée d'algues rouges tressées. Après avoir poussé un grand portail d'émeraude, ils pénétrèrent à l'intérieur et nagèrent jusqu'à une immense salle dans laquelle un vieux phoque gris gémissait, étendu sur un lit, au pied duquel se trouvait un poignard maculé de sang. Au premier regard, le jeune homme reconnut l'arme avec laquelle il avait coutume de tuer ses proies. Il se souvint alors qu'il avait blessé un phoque quelques heures auparavant, lequel lui avait échappé en plongeant dans la mer, le poignard toujours planté dans son flanc. Persuadé d'avoir été conduit dans ce palais pour y subir le châtiment de son crime, le pêcheur se jeta à genoux devant le vieux phoque et implora son pardon. Mais à cet instant, son guide prit le poignard et lui demanda s'il le reconnaissait. « Hélas !» soupira le pauvre homme, « c'est mon arme. » Le vieux phoque qui se trouve devant toi est mon père, et nos chemins et nos médecins sont incapables de guérir la blessure que tu lui as infligée. Pour le soulager, ils ont besoin de ton aide. C'est pourquoi je t'ai conduit ici. Pardonne-moi de t'avoir menti, mais c'était le seul moyen de te convaincre. Ne t'excuse pas, répondit le pêcheur. Je regrette mon geste. Très bien, si tu es sincère, pose ta main sur la blessure et celle-ci guérira aussitôt. Le jeune homme obéit. À sa grande surprise, les chairs cicatrisèrent comme par magie, et le vieux phoque se redressa joyeusement sur son lit. « Frère, tu nous as rendu un fier service !» s'écria alors le jeune phoque avec reconnaissance. « Je vais te raccompagner chez toi, mais avant de partir, tu dois me jurer de ne plus jamais tuer de phoque. Si tu brises ton serment, tu mourras dans d'atroces souffrances. Et si tu respectes ta parole, je te promets que mes amis rempliront toujours tes filets de poissons. Pour les remercier, il te suffira simplement de leur jouer quelques airs de harpe ou de cornemuse, car nous adorons la musique. » Le pêcheur jura de ne plus jamais lever la main sur un phoque. Conformément à sa promesse, son guide le ramena immédiatement sur la terre ferme, se changea en homme accompagné d'une jument et lui rendit sa forme humaine. Puis, il le fit monter derrière lui sur sa selle, galopa jusqu'à sa demeure et le déposa sur le seuil. Mais avant de partir, il lui tendit un petit sac, en souriant. « Souviens-toi de son serment et conserve ceci en mémoire de moi. » Après lui avoir dit adieu, le pêcheur rentra chez lui et ouvrit le sachet qui était rempli de perles. Ravi, le jeune homme montra ce trésor à sa femme et lui raconta son étonnante aventure. À dater de ce jour, il se contenta de pêcher des poissons et vécut heureux jusqu'à la fin de sa vie.